Alors, salut Esmar, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui chemin, qui dégouline, qui transpire le catch, l'ignoble sport. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est spécial, aujourd'hui, nous reviewons un pay-per-view, le pay-per-view du samedi, le pay-per-view qui est consacré à NXT, en l'occurrence le TakeOver, le 30e épisode du nom pour le pay-per-view TakeOver de la NXT. Je pense que vous m'avez reconnu, si ce n'est pas le cas, je suis votre dinosaure Kenny, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et je suis accompagné en famille, parce qu'on ne change pas, une équipe de vieux qui job pour les jeunes. J'accueille mon papy. Salut papy, comment ça va?
Bonjour tonton, bonjour les petits enfants, ça va, NXT,
ouais,
à fond les ballons.
On est d'ailleurs au Performance Center, hein, à la différence de SmackDown, ça n'a pas bougé NXT, on est toujours à Full Sail University à Orlando, Floride, USA. Voilà, on retrouve notre salle finalement dans laquelle on a nos bonnes vieilles habitudes, hein, mon papy.
Bah oui, et surtout pour NXT, eux ils ont été là avant le confinement, ils y resteront après le confinement, donc quelque part c'est logique qu'ils... Il saute toujours.
Voilà. Alors la petite manipulation de cette review aujourd'hui, mes amis, c'est que comme c'était un samedi, ce TakeOver 30, eh bien, en même temps, figurez-vous que l'AEW, la All Elite Wrestling, a décidé de délocaliser la baston du mercredi, les salauds, au samedi, pour faire opposition, pour faire barrage et pour faire bagarre à NXT TakeOver 30. Et donc, du coup, on a deux shows en même temps. Donc, je me permettrai, étant donné que j'ai vu le Dynamite de ce samedi, je me permettrai de faire des petites incartades avec la All Elite Wrestling pour vous donner quelques résultats au passage. Notre fil rouge, hein, mon bon papy, c'est bien NXT TakeOver 30. On va attaquer par le kick-off. Voilà, petit kick-off. Est-ce que tu as regardé le kick-off?
Non, tu sais très bien ma philosophie par rapport au kick-off. Ouais. Je ne regarde pas, même si le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir vu l'entrée des Breeze & Go. Je présume qu'ils ont dû faire quelque chose de sympa.
Ouais, j'essaye toujours d'être motivé à le regarder, ce kick-off, hein, mais j'y arriverai jamais. Hein. Donc, je vais continuer à reviewer ça seul et abandonné de tous. Alors, le kick-off, les amis, bah écoutez, le kick-off, en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire finalement. Pas la peine d'en faire des caisses. Ça a été un match qui a duré 7 minutes. Donc, voilà, étonné par la durée d'ailleurs justement de ce match, et puis un peu étonné par les vainqueurs, puisque ça, on avait donc les Breeze & Go face à la Legado del Fantasma avec Joaquin Wilde et Rui Mendoza, et en face on avait les One Two, c'est-à-dire Danny Burch et Oni Lorcan, et je m'attendais peut-être à une victoire un peu de l'anglais et de l'américain, et plutôt pensais que les Mexicains étaient dans la hype en ce moment avec son Escobar qui a la ceinture Cruiserweight. Et ben non, et ben c'est Breeze & Go qui vont remporter ce Number One Contenders match pour le Tag Team Championship. Et ouais, c'est les
Breeze & Go. Ça fait plaisir.
Ils vont donc affronter Imperium pour les championnats par équipe de la NXT dans les prochaines semaines. Voilà. Alors c'était un combat assez sympa, hein, mais qui était vraiment court, qui se finit avec le finish habituel des Breeze & Go. Vainqueur, donc qu'est-ce que t'en penses de ça, là, les Breeze & Go, son Number One Contender, mon papy?
Oui, alors moi j'aurais parié sur une équipe face, du coup, vu que c'est Imperium qui a l'équipe, qui a la ceinture et qui sont heal, et très heal, donc j'aurais, ouais, Breeze & Go 1-2. Breeze & Go, ça va très bien, moi c'est une équipe que j'aime bien parce qu'ils savent à la fois faire de la comédie tout autour du match, faire des comédies match, et aussi quand il faut être sérieux, ils savent aussi, c'est rarement génial, hein, mais notre ami Fandango et notre ami Taylor Breeze, nos deux amis, donc, ils savent quand même faire du catch très propre et sympathique à voir, je trouve. Hein. Donc, je suis content pour eux, en tout cas.
Voilà. Donc, ils se retrouveront face à Imperium à déterminer quand. Voilà. Petite chouinerie, quand même. C'est que malgré tout, nous n'aurons pas le Tag Team Championship qui sera à l'honneur pendant ce takeover. La ceinture par équipe ne sera pas défendue par Imperium lors de ce pay-per-view. Je trouvais ça un petit chouïa dommage. Voilà. Je queen un petit peu. Voilà. Bon, allez, on rentre, on déconne pas, on rentre dans le main show. Là, ça y est, on sur la carte principale. Ça s'ouvre avec un single match qui va avoir s'affronter Finn Balor, le prince, puisqu'il est revenu un peu à sa gimmick du prince de l'époque de la New Japan, où il était le prince des vites. Là, c'est Finn Balor qui va affronter Timothy Thatcher, qui est un peu un anglais un peu très, 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 très énervé ces derniers temps, qui avait battu Riddle dans un steel cage match il y a quelques semaines, quelques mois de cela. On va avoir un match assez solide pour un opener de 13 minutes 30 quand même. Donc les gars ont eu de la matière et c'était plutôt pas mal. Alors moi, je vais dire d'entrée que je suis quand même surpris de voir Finn Balor dans un pay-per-view comme TakeOver et finalement le voir ne faire seulement qu'un single match avec un opener. Ça paraît un peu... J'ai envie de dire que pour Finn Balor, le main roster paraît très, très, très loin dorénavant, quoi. Mais ça n'a pas empêché de donner un bon match très british, finalement. So british, ce match, puisque entre un Irlandais et un Anglais, fatalement...
Il est anglais, Thatcher ? Il n'est pas américain ?
Il me semble qu'il est anglais. Ah, il serait américain, Thatcher ? Bon, écoute, je ne sais pas pourquoi. Avec son nom, moi, je me suis toujours...
Bah, je pensais qu'il était anglais. Ils l'ont annoncé comme du Minnesota ou je ne sais pas quel coin quand il avait...
Ah ouais, bah écoute, tu as peut-être raison. Je n'ai même pas percuté, en fait, quoi. Il va quand même tenter un peu tout son va-tout, hein, l'américano, anglais, je sais pas quoi. Quand tu t'appelles Thatcher, merde, hein, quel héritage, mon Dieu. Et il va tenter avec son single leg Boston Crab de gagner un peu, mais de bien serrer et bien soumettre le Finn Balor. Mais celui-ci va choper les cordes, va réussir à s'en sortir. Il va y avoir un échange bien intense entre les deux. Et finalement, l'ancien NXT Champion, parce que Finn Balor, c'est quand même un ancien NXT Champion, va réussir à placer le coup de grâce, puis son 19-16, hein, c'est bien ça. Et voilà, va mettre le finish à cet opener. Victoire de Finn Balor. Papy, 13 minutes 30 de plaisir.
Ah oui, j'ai trouvé plutôt bien cet opener. Alors, je reviens sur deux points. Donc, du coup, Timothy Thatcher est bien américain.
Il est bien américain,
il est né à Sacramento. Ouais.
Donc, d'accord, ok.
Bon américain de Californie.
Tonton, c'était mignon. Hein.
Mais, ouais, mais ouais. Je suis d'accord avec toi, moi je l'ai persuadé qu'il est anglais vu le nom Thatcher, ouais, ouais. Il est vraiment anglais, quoi.
Il a vraiment une tête d'anglais, quoi.
Il a une tête d'anglais, c'est vraiment
cool. Mais oui.
Et ouais, mais donc c'est voilà, donc un petit point là. Et sinon, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as dit en entrée avec Finn Balor qui était un ancien champion universel et là qui est en opener de NXT, d'un TakeOver NXT, quoi. Là, c'est...
Eh oui.
Et alors, du coup, c'est marrant parce que moi, je me suis fait la réflexion inverse. Je me suis dit, est-ce que du coup, il serait pas proche d'un retour dans le main roster, tu vois, à la tête d'un gang, par exemple, tu vois. Par exemple, parce que là, je me suis dit, il est tellement bas qu'il va falloir qu'il pourrait revenir avec des envies de vengeance, de châtiment, par exemple, tu vois. Ça serait pas mal.
Genre des châtiments, voilà.
Des châtiments avec des battes de baseball pour taper des sols ou des... Ou faire des griffes avec, je sais pas, ouais, avec des trucs qui piquent, enfin, des échantillons très corporels, quoi.
Ouais, ouais, avec des mecs avec des cagoules tout en noir, voilà, qui
voilà, se baladent un peu voilà. De chaud. Moi, j'imagine un peu là-dedans, tu vois, Finn Balor, du coup.
Et ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que, quand même, le mec, champion universel, hein, quand même, quoi, qui aura marqué un petit peu sa période dans le main roster, qui aura eu, je me rappelle, un énorme match qu'il avait eu face à Brock Lesnar, aussi, entre autres. Voilà, il est à NXT, on a l'impression effectivement qu'il descend tout doucement mais sûrement. Donc c'est voilà, mais il est quand même en pay-per-view, ouais. Il va pas se plaindre, il a de l'antenne, ça va encore pour lui, mais méfiance Finn Balor, méfiance quoi. Le train passe pas deux fois pour le main roster.
Il a des bonnes stats en pay-per-view, je crois d'ailleurs à TakeOver, Avant, ils l'ont dit, le nombre de victoires qu'il avait à TakeOver, c'est assez impressionnant.
Par contre, gros palmarès à TakeOver. Il n'y a pas de mystère là-dessus. De toute façon, Finn Balor a fait les beaux jours de TakeOver. Hein. Entre autres, avec des rivalités avec Samoa Joe. Non, vraiment, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Quoi. Mais voilà, c'est pour ça en fait, qu'on l'évoque, parce qu'on est finalement surpris de le retrouver à cet endroit-là de la carte. Donc voilà, petit crochet juste pour un petit faux, petite info pour une petite baston vite fait du mercredi. Non, du samedi. L'opener à Dynamite, c'était un tag team match. C'était les FTR, les ex-Revival, qui ont affronté les Private Party. Et là, on aura eu un opener de 12 minutes 30 et on aura une petite victoire des Revival. Voilà.
FTR.
Au passage. Allez, on rentre dans le dur là maintenant parce que là, on rentre pour le WWE. NXT North American Championship qui va jouer dans un 5-way ladder match. Okay, le titre est vacant. Keith Lee a donc bien laissé au Great American Bash, comme vous l'avez justement dit, papy, dans la review de SmackDown. On va avoir un beau plateau puisqu'on va avoir un Damian Priest versus Bronson Reed versus Cameron Grimes versus Johnny Gargano versus Velvet Dream. On va avoir un match de 21 minutes 25. Alors là, un play-by-play quand même juste monumental parce que ça s'est rendu coup pour coup tout au long du combat. On aura eu des interventions, on aura eu des spots sur les sur les échelles, on aura eu des spots par-dessus la troisième corde. On aura vu aussi Candice LeRae venir débarquer pour aider son mari de Johnny Gargano. Elle va recevoir un gros bump. Elle va donner aussi, elle va placer un Hurricane Rana aussi assez incroyable. Elle va toujours impliquer, elle va se retrouver en haut d'une échelle sur les épaules de Bronson Reed, où elle va tomber sur un splash sur son propre mari. Sur son propre mari, les amis, quoi. Et vraiment, enfin, ça a envoyé dans tous les sens. Je pense que c'était un bon line-up. Il y avait un bon casting là, parce qu'avec un Velvet Dream qui est de retour, avec un Johnny Gargano qui est insupportable à as fuck, il y avait pas mal d'ingrédients dans ce match pour raconter une belle histoire. Il y a eu grosse bagarre. Il y a eu, en tout cas, me concernant, plusieurs moments où je me suis dit « Ah, c'est Cameron Grass qui va gagner. Ah non, putain, c'est Bronson Reed. Ah, mais merde, putain, non, c'est Gargano, fait chier. » Et puis finalement, bah non, celui qui va mettre son nom sur le titre North American Championship, ça va être, comme l'avait dit votre tonton Chris dans la review de SmackDown, si vous nous avez écouté, c'est Damian Priest qui remporte ce match. Alors, papy, tes impressions sur ce match de l'échelle?
Ah bah déjà, je peux te dire que j'ai fortement pensé à toi au moment du finish en disant
« Ah bah oui !»
Ah, il a eu raison. En plus, j'ai vu Cameron Grimes qui grimpait juste avant. Je faisais « Ah, c'est bon, je vais m'en sortir !» Et non. Tu as bien joué, bravo. Moi, je pensais un poil trop vieux, tu vois, pour ce genre de titre. Je pensais qu'ils allaient le donner à un plus jeune. Mais je me suis trompé et voilà. Bravo, j'avoue ma défaite. Bien vu.
Yes.
Sinon, concernant le match, alors je t'avouerai, au début, j'ai eu très peur. Parce qu'en fait, un match de l'échelle sans aucune ambiance autour, j'ai trouvé très très fou au début. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans le match. Et là, je dois tirer le chapeau aux catcheurs. Ils ont réussi à me remettre dedans par des bumps, par des passages importants. C'est vrai que tu en as cité beaucoup. Et il y en a énormément qui restent en mémoire comme ça. Notamment Velvet Dream qui passe par-dessus tout le monde et qui s'est atterri sur les tables bien loin. Il a disparu
carrément, ouais.
Il est parti loin. Et puis voilà, et j'ai trouvé aussi qu'ils étaient très intelligents dans la façon d'utiliser les échelles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé à mettre des échelles à l'envers, des échelles que dans des coins qui ne servent pas avant 10 minutes. Non, à chaque fois qu'ils mettaient une échelle à l'endroit, c'était parce qu'ils voulaient en faire quelque chose. Même si ils étaient interceptés, que du coup l'échelle servait plus tard, mais au moins, dans l'immédiat, ils s'en servaient pour quelque chose sur l'échelle. Ils ne la posaient pas là pour ensuite aller à l'autre bout du ring. Et ça, j'ai trouvé bien ça bien. Moi, j'aime vraiment bien les matchs à l'échelle quand on met les échelles pour faire quelque chose et pas juste pour un truc qui servira dans 20 minutes, quoi. Et donc, voilà. Donc, bravo aux performeurs.
Je ne l'ai pas dit, mais à noter aussi les petits efforts de cosplay que j'ai bien aimé parce qu'il y a Velvet in Dream est arrivé un petit peu en mode Scott Steiner. Bronson Reed avait une tenue vraiment, je pense, totalement hommage à Bam Bam Bigelow.
Oui.
C'était vraiment sympa les tenues des mecs et tout. J'ai trouvé Cameron Grimes très bon et m'a fait très peur. Hein. Moi aussi, j'ai pensé à toi, mon papy, hein, parce que j'ai bien cru qu'il allait le gagner ce match. Hein. vraiment, à cette année, avec les Money in the Bank, les machins, pour moi, c'est un des meilleurs matchs de l'échelle que j'ai vu sans public.
Oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi, parce que le Money in the Bank, c'est pas un vrai match. Il y a eu les matchs tag team qui finalement se sont fait en un contre un, donc c'était pas vraiment terrible non plus. Ouais, je pense que c'est. En tout cas, ils ont en tout cas bien réussi à contourner l'absence du public. Ça, c'est chapeau à eux. Et les cinq. Hein, bon, Gargano est un peu plus en dessous que les autres, forcément, parce que c'est Gargano, quoi. Mais bon, sinon, les autres étaient plutôt bien. Bravo à tous.
Ouais, et puis il y avait un absent de marque dans ce match, hein, puisqu'il y avait Dexter Lumis qui était en gros push. Et qui s'est malheureusement blessé 2 semaines avant le takeover, donc était absent, donc il faisait aussi un autre gros nom. On aurait pu avoir un six-way, ça aurait pu être quelque chose, hein, avec John Dexter Lumis en plus dans ce match-là, ça aurait pu nous donner un truc, le match of the year. Et vraiment, très 21h25 d'action. Effectivement, je suis comme toi, moi, mais ça, je suis comme toi, en fait, depuis le début du confinement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours du mal, de toute façon, à rentrer dans les matchs au début, surtout dans les matchs à stipulation particulière. Mais là, franchement, ils ont délivré la marchandise. L'ancien Punishment Martinez aka Damian Priest rejoint quand même des gros noms, hein, à NXT pour ce titre dorénavant, hein, avec Keith Lee, Adam Cole, Ricochet, Roderick Strong, Johnny Gargano. Je veux dire, voilà, ça pose un homme, mine de rien, dorénavant, cette ceinture à NXT. Et voilà. Et
puis, respect
à Candice LeRae pour avoir mis son corps en jeu, hein, pendant le match. Hein.
Elle a bien donné son corps à la source, effectivement.
Ouais. Et pendant ce temps-là, pendant la baston du samedi, eh ben, il y avait à Dynamite, il y avait des matchs à 4 contre 4. On avait eu un match avec le Jurassic Express, les Natural Nightmares, c'est Dustin Rhodes et Cutie Marshall, qui ont affronté Butcher and the Blade et les Lucha Brothers, qui sont de retour. J'en parle parce que c'est très important. Pentagon et Rey Phoenix sont de retour dans la Tag Team Division de la All Elite Wrestling. Ça aura un petit match qui aura duré 9 minutes 23. Hein, et victoire des Faces, des Jurassic Express. Deuxième victoire consécutive avec le Jurassic Express. Bravo, Luchasaurus.
Bravo à lui.
Ah, ça fait toujours plaisir que Luchasaurus gagne un match. Alors, on retourne à NXT, on retourne à TakeOver 30. On a Adam Cole. Alors, Adam Cole, il affronte Pat McAfee. Alors, Pat McAfee, pour situer aux amis qui ne sauraient point, ce monsieur sort de la NFL. C'était un punter, un kicker à la NFL, quoi. Il a été aux Indianapolis Colts. Si je crois, alors là, il faudrait qu'il y ait l'ami Irène qui soit là, mais il me semble que c'était l'équipe de Manning. Et voilà, et ce gars-là, depuis, s'est reconverti et est devenu analyste voilà, dans le milieu du catch professionnel. Et donc, il y a eu plusieurs altercations ces dernières semaines avec Adam Cole. Et tout ça nous a amené sur une rivalité, à des interventions dans le show de Pat McAfee. Voilà, on s'est traité de nom d'oiseau. Et puis finalement, tout ça, ça a débouché sur un match au fil des semaines. Ce match, il a lieu à TakeOver 30. Pat McAfee va venir avec tous ses poteaux qui doivent venir effectivement aussi de la NFL, et Adam Cole va venir aussi avec l'Undisputed Era, mais ça va vraiment se régler entre les deux mecs. Donc on va avoir un match de 16 minutes. Pat McAfee m'a plutôt surpris physiquement parce que j'avais pas trop réalisé en fait finalement pendant toutes les rivalités quel gabarit il avait. Mais après, je me suis rappelé que, ah oui, mais oui, il est face à Adam Cole, quoi. Et Adam Cole est une crevette, et c'est d'ailleurs un des ressorts dont se sert Pat McAfee pour faire enrager Adam Cole, quoi. En disant qu'il est tout petit et qu'il fait pas bien peur, quoi. Voilà, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, bah, l'ancien joueur de foot américain, c'est quand même pas vraiment un catcheur. J'ai trouvé quand même qu'il avait fait quelques moves intéressants. Il fait une superplex, par exemple, qui est vraiment, vraiment bien réussi. Voilà. Sur les projections, il a été plutôt pas mal avec quelques aptitudes physiques plutôt intéressantes. Bon, Adam Cole est quand même largement supérieur wrestling technique pure et il va quand même donner, mais il va finir par fermer la bouche de Pat McAfee en faisant sa bitch. Voilà, il va lui cogner très très fort, il va lui faire très 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 mal, et finalement Adam Cole au bout de ses 16 minutes va remporter le match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette finalement de ce combat de mid-card, j'ai envie de dire.
Ouais, alors pour venir au combat en lui-même, j'étais pas mal, effectivement. Pat McAfee m'a plutôt bien surpris, même sur ses montées sur Tom Buckle, là, il montait super vite. Il y a un moment, je crois qu'il saute carrément de tout en haut du truc. Il est bien
petit
comme garçon. On voit
ouais.
qu'il
ouais, ouais.
Il est physiquement, il était présent en tout cas. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le reste, c'était moyen. Bah, comme souvent, quand tu as un non-catcher qui va, là, il fait ce qu'il peut, mais c'est rarement exceptionnel, quoi. Il faut que l'autre fasse le boulot à la place. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre leur rivalité, en fait, aux deux gars. Enfin, ils ont un peu rappelé des trucs, mais j'ai l'impression que c'est sorti un peu nulle part. Alors, en quelques semaines, c'est devenu les pires ennemis du monde et qu'il fallait absolument se battre sur un takeover. Et donc, du coup, bah, quand t'as un non-catcher qui affronte un catcher sur une rivalité de quelques semaines, je trouve pas ça super emballant, en fait. Encore, c'est un truc qui durait depuis des mois et puis que ça finissait par monter en pression jusqu'à avoir un match. Pourquoi pas, mais là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont sorti du chapeau pour faire un événement, et hop, embrouillez-vous un peu, deux, trois noms d'oiseaux, un petit coup de pied en vicieux, puis c'est torché, on fait le match, quoi. Donc voilà.
Ouais,
donc
après le truc, c'est que Pat McAfee, il est quand même très mainstream, quoi. Voilà, c'est un gars connu, un peu comme l'affaire du Gronkowski, comme souvent les anciens joueurs de NFL, c'est un mec qui a été au Pro Bowl, voilà, comme souvent ça arrive. La WWE, elle cherche à dégoter un mec un peu mainstream. Il s'avère que cet ancien mec de NFL s'est offert un petit show en analyste de catch. Du coup, on a fait monter la tambouille comme ça. Mais après, moi, je te confirme aussi que de mon côté, je n'étais pas fortement très intéressé par cette rivalité.
Voilà.
Ça ne me semblait pas, tu vois, fondamental dans ce takeover. Je l'ai dit en début de review, j'aurais préféré par exemple avoir l'Imperium qui défende son titre tag team, tu vois, plutôt qu'avoir un match random finalement de Adam Cole.
Ouais, en fait, on n'était pas le plus concerné par ce match-là, je pense.
Oui, ouais, voilà, ouais, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'était un truc qui faisait certainement saliver le téléspectateur américain, mais bon, pour nous, en tant qu'Européens, ça n'avait pas une saveur extraordinaire, quoi.
Non.
Donc, victoire de Adam Cole, qui va annoncer après derrière sur les réseaux sociaux, etc., que bah voilà, qu'il en a fini avec Pat McAfee, qui lui a pété la gueule, qu'il a été impressionné quand même par les qualités les qualités athlétiques du rookie, on va dire. Mais voilà, qu'il prépare un grand avenir et quelque chose de plus grand que le disputé des rails, il a dit. Alors là, attention, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, cette affaire. Il a annoncé ça, hein, carrément ouvertement, quoi, dans son personnage d'Adam Cole. Voilà, il se prépare à quelque chose de plus grand que l'Undisputed Era, et c'est incontesté. Alors, papy, attention, Adam Cole
nous fait... Ah, une autre piste, alors, peut-être.
Ouais, une autre piste qui s'ouvre encore. Décidément, Retribution, on va les mettre à toutes les causes, à toutes les sauces.
On a envie, en fait. Hein. On a envie que ce ne soit pas des tocards, c'est surtout ça.
Voilà, ouais. Randy Orton, Adam Cole, Finn Balor, tous, ils vont tous y passer, on va voir. Quel est le mec qui a le profil pour devenir le patron de Retribution, quoi. Ouais. Voilà, donc ainsi se termine le Adam Cole versus McAfee. Hop, petit détour à la baston du samedi. Hop, 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 virage à 180 degrés. On débarque à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce qu'on y voit à la All Elite Wrestling ? Un six-man tag team match. Et oui, il y a eu The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson qui vont affronter les Dark Order. Alors, avec les le numéro 5, Alex Reynolds et John Silver. Un match qui va durer 11 minutes et une petite victoire de The Elite, quoi, qui fait toujours du bien. En ce moment, ils enchaînent un peu des trios, des doubles, des, voilà, un peu de tout en tag team en ce moment au niveau de The Elite, quoi. Ils n'ont pas de ligne vraiment très directrice. On ne sait pas trop où ça va, les Young Bucks, en ce moment. Et juste pour dire, il y aura eu un truc avec Darby Allin aussi qui va affronter un espèce de mec. Alors là, papy, il faut que tu ailles quand même le voir. Tu taperas, tu vas googliser Will Ops. C'est un espèce de Blackos monstrueux, quoi, avec des épaules incroyables. Et j'en revenais même pas d'ailleurs que Darby Allin trouve le moyen de le battre, quoi. En plus, sur un truc hyper rapide. Bref. Ouais, allez, on quitte la Holy Twisting.
Je vais regarder ça.
Ouais, regarde. Will Ops. Voilà, retenez ce nom, les amis. Bon vieux master des familles, comme on aime à catcher. Allez, on retourne à NXT. On va avoir le bel homme, hein, qui va venir faire quelques petits commentaires à NXT, hein, quoi, pour rappeler que voilà, il va péter la gueule à Randy Orton ce soir à SummerSlam. Ne ratez pas SummerSlam. On enchaîne avec les deux matchs dorénavant qui vont clôturer ce TakeOver 30. Les deux matchs pour le titre suprême féminin et masculin. Et on va ouvrir avec le titre féminin, puisqu'en l'occurrence, on va avoir Yoshirai qui va affronter Dakota Kai, affronté de Raquel Gonzalez, ceux qui peuvent avoir quand même son importance. Ça va être un match qui va durer, je vais vous donner le timing, qui va durer 17 minutes, 17 minutes 15 même exactement. Match qui est... Alors j'ai du mal à faire le play-by-play de ce match-là, parce que moi, j'adore Yoshirai. Mais par contre, je ne suis pas un grand affolé de Dakota Kai, et ce, depuis le début, hein, même du temps quand elle était face, qu'elle était un peu be-like Bayley. Moi, j'avoue que Dakota Kai, ça n'a jamais été une fille pour qui j'ai eu une attention particulière. Donc, l'avoir là en number one contender de Yoshirai, je ne prenais ça que pour une rivalité de transition, et je pense que c'est tout à fait le cas, puisque ça va être un match assez long et assez équilibré malgré tout, hein, parce que Dakota Kai est un peu plus grande et un peu plus de plus grandes jambes, et donc plus compliqué pour Yoshirai. Yoshirai va quand même nous passer pas mal de moves, il va y avoir pas mal de tentatives de soumission, il va y avoir un beau 619 comme elle sait les faire, de la part de la japonaise, qui va bien nous envoyer. La génie des airs va être en difficulté, mais la génie des airs va quand même réussir à régler le problème. Déjà, le problème Raquel Gonzalez. Donc, elle va lui coller un diving moonsault pour la sortir un peu du match. Elle va réutiliser cette prise à nouveau. Mais cette fois-ci, ça va être sur Dakota Kai. Et ça, tout de suite, ça aide. Voilà, ça aide. Ça aide à la victoire. Et Yoshirai va remporter le match brillamment, malgré tout, hein, notre petite japonaise. Et remporter ce match au bout de 16 minutes. Ça ne va pas se terminer tout à fait comme ça, parce qu'après le combat, il y a Raquel Gonzalez qui va vouloir venger sa copine. Elle va s'attaquer violemment à la championne, mais il y a Rio Ripley qui va débarquer sur le ring pour faire le sauvetage, qui va faire fuir les deux heels, mais qui va confronter très longuement Raquel Gonzalez d'abord. Alors déjà, on aura pu se rendre compte que les deux filles, c'est deux sacrés fort beaux gabarits, ma foi. Et derrière, ben, Rio Ripley, en fait, elle n'en aura pas fini, puisqu'elle va confronter aussi, mais d'un peu plus loin, Yoshirai. Donc là, on sent que Rhea Ripley rentre un peu sur tous les tableaux. Raquel Gonzalez, Yoshirai, elle lorgne vers le titre NXT féminin. Alors, mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce match des femmes là pour le titre suprême ? Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Rhea Ripley ? Et comment tu vois la suite pour la division féminine de NXT là ?
Ouais, alors le match en lui-même, j'ai pas été emballé des masses. Alors moi, je suis ni convaincu des masses par Dakota Kai ni par notre ami Yoshirai. Ouais, après Yoshirai, je considère qu'elle en phase d'adaptation au catch américain, enfin, en tout cas pour moi. Je trouve qu'elle n'est pas encore
super. Oula, là, ça va faire grincer des dents, ça.
Ah non, mais je trouve qu'elle n'est pas encore super fluide dans ses enchaînements. Et puis
déjà, moi, ça me fait couiner, moi, déjà. Quoi.
Mais du coup, je trouve que c'est important qu'elle commence par Dakota Kai, qu'elle ait une victoire un peu convaincante. C'est Dakota Kai qui est un peu la seule heel côté NXT, finalement, parce qu'il n'y a plus grand-chose. En fait, le roster féminin de NXT, moi, je le trouve très pauvre, en fait.
T'as Raquel Gonzalez, Mercedes Martinez.
Parce que t'as Rhea Ripley, t'as Yoshirai, et après, t'as plus personne, quoi, finalement.
T'as Mercedes Martinez qui arrive ?
Oui, voilà, qui est en train d'arriver, mais en termes de construction de plusieurs mois, plusieurs semaines, t'as pas grand monde, en fait.
Oui,
t'as,
oui.
Il n'y a plus que deux tout en haut. Là, t'as Dakota Kai qui a été poussé juste un peu pour faire office 2, ce qu'il fallait un adversaire à Yoshirai, mais à part ça, t'as pas grand monde, en fait. Et donc, je pense qu'ils sont en train de reconstruire la division. Ils sont aussi en train de construire Yoshirai. Je ne vais pas la juger définitivement sur ses premières sorties, on va dire. Je pense qu'effectivement, elle a des qualités. Donc, il va falloir petit à petit, elle va certainement monter encore plus en puissance, au fur et à mesure qu'elle s'adaptera à ses adversaires aussi. Mais puis voilà, quoi. Donc, ouais, je ne suis pas méga emballé, mais je pense que c'est une étape nécessaire, en fait, cette confrontation. Et puis, Réa Ripley, elle se rappelle un peu au bon souvenir de tout le monde, parce qu'elle n'était pas à Takeover, mine de rien, alors qu'elle était au dernier WrestleMania. Donc, c'est un petit contre-coup, là. Elle joue un peu avec la low-card en ce moment de NXT. Bon, elle est super jeune, elle est super talentueuse et tout. Moi, je n'ai aucune crainte qu'elle puisse remonter très vite en haut de l'affiche. Mais voilà, donc voilà. Effectivement, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord, c'est vraiment un jeu de transition. Il était nécessaire parce que Yoshirai, il faut bien qu'elle ait comme des défenses de titre. Mais à part ça, pas non plus de quoi emballer des masses. Et puis, moi je veux dire, en tout cas, son 619 de Yoshirai, je le trouve pire que le Swiss 19 de Sparrow. Voilà, c'est dit.
Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est hater. Hein. Oh là là là, je vous jure.
C'est mais cadeau.
Cela dit, je suis d'accord de toute manière, hein, je l'ai dit en préambule, clairement, j'ai trouvé que le match était très moyen, quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment, voilà. C'est moi ce qui j'ai aimé, en fait, tout le segment, tout ce qui a enchaîné à partir du finisher, le segment avec Raquel Gonzalez et avec Rhea Ripley, tout ça, moi, ça m'a bien chauffé. Je trouve que c'est bon pour la suite de la division féminine. Donc, écoute, on verra la suite et on va arriver à notre main event masculin. Mais avant, hop, la baston du samedi, on va terminer par la baston du samedi parce qu'on va garder le main event de NXT pour la fin, hein, pour la bonne bouche. Il restait que deux petits matchs au niveau de la AEW. Il y avait le Women's Tag Team Cup Tournament Final Match. C'était la finale entre Diamante et une de mes chouchous à la Lucha Underground, qui en l'occurrence Ivelisse, et qui affrontait les Nightmare Sisters, qui sont composés de Ali et Brandi Rhodes. Alors ça va être un match de 11 minutes. Chez les femmes, c'est pas tout le temps le cas à la AEW, donc c'est à noter quand même. Elles auront droit à 11 minutes de match. Et finalement, cette finale est remportée par Diamante et par Ivelisse. Alors, Diamante la cubaine et Ivelisse la portoricaine. Et alors, bon, moi, Ivelisse, les gars, allez voir à la Lucha Underground, elle affrontait des femmes, elle affrontait des hommes, elle affrontait des dragons, elle affrontait des mille muertes. Cette femme n'a peur de rien. J'adore Ivelisse dans le ring. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et je pense qu'elle va faire un bien fou à la division féminine de la All Elite Wrestling. Voilà, c'est dit. Et on termine juste par le main event de la All Elite Wrestling, mon bon papy.
Oui.
C'était le TNT Championship qui était défendu par Cody. Voilà, un de tes favoris, je sais quand même. Tu aimes le Nightmare. Et le Nightmare, bah figure-toi que donc il défendait, alors je sais plus, je crois que c'était sa 8e ou 9e défense de titre du TNT Championship. Et il affrontait ce coup-ci un gros morceau puisqu'il affrontait Mr. Brody Lee, le Exalted One des Dark Order. Et ça s'est pas très très bien passé pour Cody, mon bon papy, puisque Cody s'est fait démonter en 3 minutes. Il s'est pris une discus clothesline from hell. Il est resté couché sur le ring. Il a été évacué par civière, non sans que, au préalable, le Dark Order envahisse le titantron, la rampe et pète la gueule à tout ce qui bougeait autour, dont Cody qui essayait de s'en sortir, et il a fallu que Brandi Rhodes, alors je pense que tu aimerais cette image, il a fallu que Brandi Rhodes vienne protéger de son corps son mari, qui qui était en train de se faire démolir par toute la troupe du Dark Order. Mais Mr. Brodyly a plus d'une corde à son arc, puisqu'il a une femme dorénavant dans le Dark Order, et celle-ci est venue porter une petite soumission sympathique à Brandi Rhodes, histoire de bien coller les deux comme il faut, quoi. Et il est reparti avec la ceinture, le TNT Championship. Et au préalable, il avait aussi balancé, il avait un sac où il avait en fait cassé on va dire une réplica de la ceinture du TNT Championship en morceaux, et qu'il a balancé sur Cody, telle une merde. Voilà, hein, c'était vraiment laid. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et voilà, et nouveau règne, donc title change, nouveau règne. Brodie Lee devient le champion TNT de la All Elite Wrestling. Un petit commentaire là-dessus,
Je suis soufflé, moi, parce que j'avais l'impression que Brody, ça avait été parce qu'il a, il avait eu un match pour le titre suprême Moxley.
Contre Moxley.
Il est perdu, donc je me dis, purée, lui, ouais. Il arrive en chef de meute et il perd directement contre Moxley, je trouvais pas ça terrible. Et puis là, finalement, il revient en force en squatchant Cody, qui jusqu'à présent faisait des longs matchs contre les tocards et puis qui l'étirait. Bah ouais, alors peut-être que finalement c'est son vrai niveau, Cody. Est-ce qu'il du mal à battre des tocards, il se fait squatcher par Brody Lee, quoi.
Des tocards. La semaine dernière, Cody, il avait affronté Scorpio Sky, quoi, qui est un super worker. Et donc il a affronté effectivement beaucoup de jobbers. Mais là il avait du très 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 lourd en face de lui. Et surtout, vraiment, mon étonnement principal, ça a été ce squash, quoi. Ça a été vraiment, il en a pris plein la tête, hein, Cody.
Il était malade, et il avait bu un café qui n'était pas. Que se passe-t-il ?
Un petit café de Randy Orton ou de Zelina Vega, au choix. Voilà. Ouais. Donc, voilà, ainsi se termine donc ce Dynamite du samedi. Et le prochain Dynamite aura lieu jeudi. Alors, c'est très compliqué, en fait, parce que c'est lié au fait que la All Elite Wrestling est diffusée sur la TNT et que la TNT diffuse les playoffs de NBA. Donc, c'est pour cette raison que Dynamite est déplacé dans tous les sens.
Et donc, le 5, y a un trou.
Ouais, et le 5 septembre, ça sera le pay-per-view de la All Elite Wrestling, en l'occurrence All Out. On en reparlera plus tard. Allez, on revient à ce qui nous préoccupe le plus ce week-end, en l'occurrence le main event de TakeOver 30. Peuple de catch-up, tenez-vous, accrochez-vous au siège, attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, parce que là, ça va envoyer du pâté. Karrion Kross versus Keith Lee. Package vidéo, comme d'habitude, monstrueux, juste avant, histoire de te dire, ah là là, mais là, on va en prendre mais plein la gueule. Et alors là, on va en prendre plein la gueule pendant 22 minutes, les cocos. Quand je vous dis qu'il fallait s'accrocher aux branches, c'était vraiment pas pour déconner, parce que là, alors là, moi, j'ai trouvé qu'on assistait à un vrai match de catch, dans le sens où il y avait toute une histoire racontée dans le catch. C'est-à-dire que on avait deux behemoths, on avait deux colosses, mais il y avait un problème, c'est qu'il y avait un colosse qui était vraiment plus lourd que l'autre colosse, et que Karrion Kross, en l'occurrence, pendant tout le match, a cherché la solution pour comment je vais faire pour projeter, pour soulever Keith Lee. Ce qui fait qu'il va, lui, de son côté, il va pas arrêter de striker et de tenter de la soumission. Il va beaucoup emmener au sol Keith Lee pour essayer de amenuir ses forces et d'empêcher le monstre de dérouler son striking et aussi toutes ses projections, parce que pour lui, ça sera plus simple de son côté. Et donc, du coup, ça va nous donner une guerre, franchement, une guerre. Voilà, les mecs se sont montrés ultra résistants, ça a cogné dans tous les sens, ça a envoyé de la soumission. Il va y avoir... plusieurs fois, en fait, Karrion Kross va tenter des sleeper hold ou va tenter des shin lock, mais à chaque fois, Keith Lee va revenir, va poser une power bomb pour un near fall énorme. Karrion Kross, de son côté, lui, pour réussir à choper du near fall, ça sera jamais avec des projections. Ça va être soit il va réussir à tenter sur des soumissions, soit il va planter un DDT à un moment pour tenter un near fall. Ça va pas marcher. Bref, Karrion Kross, il trouve pas la clé, en fait, pendant 15-16 minutes. Et tout à coup, au bout de 15-16 minutes de match, il va y avoir un retournement. Keith Lee était en train de reprendre le dessus, avait eu déjà un ou deux near fall. Et là, Karrion Kross, là, il va y avoir, voilà, à 16-17 minutes de match, tout d'un coup, il va y avoir un basculement. Et Lee est à moitié KO, quoi. À moitié dans les vapes, déjà, avec tous les coups qu'on a pris, quoi. Et finalement, le Karrion Kross, il va réussir à passer sa fameuse prise, son fameux Doomsday, là. Saito, je sais plus quoi. Splash, je sais pas quoi. Une prise quand même sur un Keith Lee qui fait 150 kilos ou 160 kilos, donc qui est quand même ultra spectaculaire. Et 1, 2, 3, c'est Karrion Kross qui va prendre le titre. Le titre change de main, Karrion Kross devient champion NXT, alors que Keith Lee avait pris le titre à Great American Bash, on vous l'a rappelé, et donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc grosse cote Et grosse, grosse, grosse victoire de Papy dans les pronostics. Papy,
yes,
à toi la parole, là, je crois.
Ah oui, gros, du match de bistec, là, celui qu'on aime, là, où il y a de la viande qui claque contre la viande. Ça faisait plaisir de voir ça. Ouais, bah, alors moi, j'avais expliqué mon point de vue au moment des pronos. Effectivement, je pensais que c'était un. Ça me semblait mieux pour l'avenir que Cross gagne, en fait. Parce que si tu mettais, c'était la plus grosse menace que j'imaginais par rapport à Kisly. Et si tu l'écartais tout de suite, ça me semblait compliqué après de rebondir. Mais alors là, le voir gagner clean en plus, j'étais épaté, quoi. C'est pas non plus un match 5 étoiles. Je pense qu'ils peuvent très bien faire une revanche à un niveau encore supérieur. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, et ils l'ont dit dans les commentaires, où c'était d'ailleurs Corey Graves qui était aux commentaires pour ce pay-per-view.
Ah ouais, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Ouais, Corey Graves, Vic Joseph, Beth Phoenix. C'était un trio un petit peu inhabituel, en fait. Mais ouais, c'était pas mal, les commentaires américains. J'aime bien Beth Phoenix, en l'occurrence. Je trouve qu'elle est assez agréable au phrasé et tout ça. Et puis, voilà, Corey Graves, Vic Joseph, on commence à les connaître bien maintenant.
Ouais, et puis du coup, ils ont bien souligné en fait le fait et c'est ce qui racontait l'histoire. En fait, ils l'ont bien du coup explicité, c'est qu'en fait, c'était deux gros masters qui se foutaient sur la gueule et que Kisly, petit à petit, a commencé à se fatiguer. Tandis que l'autre était infatigable, quoi. Il a pas arrêté. Donc, victoire très convaincante de Cross qui du coup se positionne over the top.
Ah ouais.
Là, il va falloir aller le chercher, garçon. Mais en même temps, je pense que vu le personnage qu'il avait et vu le physique qu'il a, ça aurait été difficile de l'écarter tout de suite, en fait. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat, en tout cas. Et du coup, Kisly, what next pour lui? Est-ce qu'il revanche? Ou est-ce que, comme tous les autres qu'on a cités tout à l'heure, il va peut-être viser plus haut?
Retribution?
Voilà, Retribution. Bon, là, il en mange 40 à des mecs de Retribution. Hein.
Ah ouais, lui tout seul, déjà, il en fait 20. Donc, voilà. C'est un peu compliqué, quoi. Bah, écoute, moi, je dis, Karrion Kross, il est dans une shape extraordinaire. Son entrée est bien spectaculaire avec Scarlett, elle sert pas à grand chose, on va dire, en dehors du ring, hein, à part lever les yeux au ciel, lever les bras, les descendre, de temps en temps tapoter sur la prone, mais elle sert pas à grand chose d'autre, hein. Mais vraiment, le bonhomme est archi impressionnant. Vraiment là, ouais, il y avait de la viande, hein. C'est clair que là, c'était la boucherie sans eau, hein. Là, waouh. Au bout de déjà 10-12 minutes de match, tu te dis, mais waouh, mais les gars là avec les 300 ou 320 kilos qu'il y a sur le ring là, mais et voilà. Et moi, je croyais quand même encore à la victoire. Je m'étais dit, tant que le big catastrophe n'est pas arrivé, il a encore une carte dans sa manche. Et non, et l'autre, il est con, il est revenu, il a striké, il tente un near fall sur une close line aussi, mais énorme, un peu comme celle qui a placé Brody Lee à Cody. Et vraiment, c'était un combat incroyable, hein, là, franchement, de ce que j'ai vu cette semaine à Raw, à SmackDown et ce TakeOver 30, pour moi, c'est déjà sans problème le meilleur match de la semaine. On va voir ce que ça va donner SummerSlam, Raw et compagnie, mais là, pour l'instant, du lourd, de chez lourd. Allez voir ce match, les amis.
Yep.
Wow, j'en suis tout émoustillé. Voilà, ouais, on a pris un coup de chaud là avec ce main event de NXT et un tel coup de chaud que on arrive à la fin de notre review. Mon bon papy, tu vas topper, tu vas flopper, tu vas noter.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Alors, c'est bien parce qu'en fait, j'ai des top et flop et j'ai des seconds juste derrière, tu vois. Alors, le flop, commencer par le flop, comme ça, on va finir par le milieu. Le flop, j'aurais pu le donner au match féminin. Mais comme je l'ai dit, je considère que c'était une étape indispensable dans la construction du règne de Yoshirai, et donc il fallait qu'elle passe par là, donc je vais l'épargner pour ce pay-per-view, et du coup de rediriger mon flop vers le match Adam Cole contre McAfee, où comme je disais, je ne suis pas le plus concerné, donc en fait ils ont fait le taf, hein, mais ça ne m'a pas intéressé, quoi. Voilà, je n'ai pas payé pour regarder ça. Ensuite, mon top, j'aurais pu le donner au main event avec une confrontation que tu as fort bien décrit et qui nous a tous les deux impressionnés, mais je vais plus le donner finalement à nos amis de tous les participants du match à l'échelle, voilà, je vais réussir à le dire, pour avoir réussi à me retourner, moi qui étais en train de me dire au début du match, oulala, je peux aimer, oulala, je peux aimer, oulala, je peux aimer, ils ont réussi à me convaincre en fait, donc bravo à eux. Mini flop, en fait, que j'ai oublié de dire, ils nous ont repassé in extenso la promo Kisly Cross. Moi, j'aime pas quand deux shows de suite on me passe la même promo de 5 minutes. Là, ça m'a saoulé. Là. Voilà. Hop,
ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont passé deux fois, ouais. Ouais, c'est vrai.
Fin de la parenthèse. Et sinon, donc du coup, ma note. Alors là, c'est simple en fait. C'est que du coup, vu qu'il y avait 5 matchs, j'ai pu noter chacun des matchs individuellement pour avoir ma note finale. Et donc, j'arrive à un joli 3,5 sur 5. Parce qu'on a eu deux gros matchs. On a eu deux gros matchs, plus un match plutôt bon en opener, même si c'était pas trop ce qu'on attendait. Et le reste, c'était un peu en dessous, mais c'était pas mauvais non plus. C'était juste moyen, quoi. Donc, moyen, plus un bon, plus deux très bons, ça fait un 3,5. Ça me semble tout à fait correct pour ce pay-per-view. Je te passe la main.
Du lourd chez le papy, là. Du 3,5, ça fait certainement longtemps qu'on n'a pas mis des notes comme ça, mon papy. Hein.
Ah oui, j'attends la tienne, du coup.
Ah bah oui, je vais te donner la tienne et la mienne avec plaisir. Alors, bon, moi, mon flop, je vais le donner à Finn Bálor. Voilà, parce que c'est pas possible, quoi. Il est en opener d'un takeover. Il est dans un single match, il est un peu à l'abandon, le Finn Bálor. Là, je suis assez circonspect pour l'Irlandais. Et donc, je lui donne un flop en espérant qu'il va mettre des coups de talon et des bons coups de grâce et que ça va remonter un peu pour lui, parce que là, pour l'instant, je suis inquiet, quoi, pour l'Irlandais. Donc voilà pourquoi je vais lui adresser mon flop de ce takeover. Ah, mon top, écoute, c'est impossible, je peux pas quasiment faire un co-top, hein. Finalement, on est les patrons dans cette émission, quoi.
Donc, qu'est-ce que tu veux?
Donc je fais ce que je veux, merde, hein. Alors moi, je vais donner un co-top, parce que franchement, le ladder match pour le North American Championship et le main event, je les mets au même niveau. J'ai trouvé ces deux matchs énormes, je les mets à 4,5 tous les deux. Je mets pas un 5 parce que le ladder match, il y a eu, effectivement, comme tu as dit, les 4-5 premières minutes, un peu de flottement, un peu de silence, un peu de compliqué à se mettre en place. Mais après, dès que c'était complètement lancé, c'est devenu fou ce match. Et puis j'ai adoré, voilà, moi j'aime les matchs de Colosse, donc là j'ai été servi, mais gravement, quoi. Voilà, j'ai eu de la côte de bœuf, j'ai eu de la longe, j'ai eu de l'entrecôte, j'ai eu du rump steak, c'était vraiment pas un truc pour vegan, ce main event, hein. Donc vraiment, non, deux matchs extraordinaires dans ce takeover 30, vraiment à signaler. Et pour ma note, ça fait grimper ma note, hein. S'il y a, sur 5 matchs dans la carte principale, il y a deux matchs complètement énormissimes à 4,5 chacun. Donc je vais mettre une note haute aussi. Je vais te suivre, mon papy. Je vais être en tag team là et je vais mettre un 3,5 moi aussi, quoi. Allez, bing, bang, bang, voilà, bang, bang. Allez, on se fait plaisir. En plus, voilà, avec un petit mélange avec la IW, moi ça m'a fait bien plaisir. Je me suis fait une bonne orgie de catch. Donc, voilà. Et ben voilà, ainsi s'achève la review de ce Takeover 30 2020. Mon papy, il faut qu'on passe par la publicité, par la réclame, comme on disait à Antenne 2 il y a peut-être 30 années en arrière.
Bah, mais il faut bien nous payer quand même.
Ouais, il faut bien quand même rétribuer la team catch-up de ses efforts. Alors, vous nous trouvez déjà sur les réseaux sociaux, hein, habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous trouvez sur le site officiel catchuplepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube et sur Discord. Sur YouTube, abonnez-vous. Sur Discord, pareil. Faites sonner la cloche sur YouTube. Laissez des commentaires, laissez des questions, laissez des notes, des tops, des flops. Sur Discord, pareil, n'hésitez pas aussi. On vous cite à l'antenne quand on fait des promos ou si vous avez des questions particulières. Il n'y a pas de problème. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour de la réclame of the day de Catch-Up. Mon bon papy, je te remercie chaudement d'avoir été présent pour cette review de ce Takeover 30 assez, comment dirais-je, saignant.
Voilà, merci de m'avoir invité dans ta boucherie et merci de la saupoudrer de quelques petites doses d'AEW.
Voilà, tout à fait. Eh bien, sur ce, peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous souhaite un très gros SummerSlam. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge. Par la face. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut peuple de catcheur. Papy, tu peux me passer le truc là pour...
Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est l'asthme.
Mince. Ventoline.
C'est ça.